Et aujourd'hui, le rendez-vous en extérieur, ça veut dire passer d'un studio de radio à l'intimité d'une chambre d'hôtel. J'avais le numéro de l'étage, mais pas le numéro de la chambre. J'ai donc erré un peu, mais heureusement, nous étions deux plus une au téléphone.
Est-ce que c'est la chambre Colette ?
C'est quelle chambre, Tania ? C'est quelle chambre ?
On va peut-être frapper, non ?
Plus que ça.
Bonjour.
On voit ça tout à l'heure.
On voit ça tout à l'heure parce que déjà celui-là, il est moyennement rouge, tu vois.
Mmh. Donc. Ok.
Le retour des beaux jours, c'est le titre qu'elle a choisi pour son nouvel album. Le 8e en près de 40 ans de carrière ou quasi. Vanessa Paradis l'a conçu avec un duo, Étienne Dao et Jean-Louis Pierrot, entre le nord de Paris et le cœur de Londres. Célèbre à 14 ans, cette femme est une brûlée vive de la presse, des médias disons. Mais ses disques la racontent, et celui qu'elle publie aujourd'hui peut-être plus que les autres. C'est le portrait d'une femme qui a aimé, rompu, aime, vécu aux États-Unis, eu des enfants, perdu des proches. Il y a tout ça dans Le Retour des Beaux Jours, dont elle a écrit plusieurs textes et co-composé des musiques. Sur l'un de ses premiers albums, Vanessa Paradis chantait « On m'envisage, on me dévisage comme une fille que je ne suis pas ». J'y pensais en entrant dans la pièce. Alors la conversation qui suit commence avec un micro dans une main, évidemment, et un Polaroid dans l'autre. Donc un œil fermé et les deux oreilles ouvertes. Oui, souriez, c'est vendredi.
Totémique, Rebecca Manzoni, sur France Inter.
Allez-y, prenez-la.
Comme fou, je ne vois plus rien sans. On en a pour un moment, là, non ?
Non, une minute ou deux. Vous apparaissez ?
C'est ça, j'ai vu. Donc j'ai la bouteille de whisky derrière la tête, hein, mais bon. Je dirais que ce n'est pas ma bouteille de whisky.
D'accord, je le préciserai.
Ah, parce que là, en plus, on en parle, c'est ça ?
Oui.
Ah, d'accord. Alors, il y a une bouteille de whisky derrière moi sur ce Polaroid. C'est la bouteille de whisky de Rebecca, c'est absolument pas la mienne. Et je dois vous dire, messieurs, dames, qu'elle est presque finie. Elle est largement entamée. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que je suis floue et la cheminée et la bouteille de whisky sont nettes.
Ça, c'est le talent de la photographe.
Ça, c'est le talent de la photographe qui a eu la bonne idée de mettre un flash en plus. Donc ça vous enlève toutes les choses, les défauts qu'on n'a pas envie de voir de son visage. Et ouais, écoute, elle est sympa, je crois, la photo.
Vous ressemblez à qui ?
J'ai l'impression que je ressemble à Vanessa Paradis, mais...
Bon. À quelqu'un de votre famille ?
Non, mais oui, je...
Plutôt à votre père ou à votre mère ?
Les deux, je vois les deux.
Sa famille, elle en parlera peu, d'autres s'en chargent. Mais elle la chante dans un disque où les textes ont rarement été aussi autobiographiques, je crois. Elle y évoque ses années passées à Los Angeles. Une musique a été composée par son fils, un texte écrit par sa fille, et le morceau qui suit est dédié à son père, décédé en 2017. La chanson s'intitule « Élégie ».
Dans le soir qui rougit, loin du monde et du bruit, seul dans la forêt qui gronde, je me réfugie. Les heures s'évaporent et à l'abri, sur l'arbre je m'appuie, espérant un souffle ou un signe. Éclat de lui à l'infini, scintillait par magie.
Alors, c'est une chanson qui parle de comment communiquer avec lui ou comment recevoir ses signes, s'il me fait des signes, d'arriver à communiquer ou à entendre s'il y a des choses qui me sont soufflées, s'il y a de la force qui m'est soufflée. Et parfois, on n'entend pas, on ne voit pas et on demande et on espère ou on prie ou quelle que soit la façon de le faire. Donc, c'était pas une chanson sur ce manque qui existe. Et en fait, c'est aussi une chanson sur ma quête d'entendre et de voir les signes. C'est une chanson sur ça. Et on en a beaucoup parlé avec Étienne. Parce qu'évidemment que j'ai essayé d'écrire ce texte. Il aurait été beaucoup plus logique que je l'écrive moi-même. Mais j'y arrivais pas. C'était pas bien, ça me plaisait pas, je ne l'aurais pas chanté, le texte que moi j'avais écrit, et d'en parler avec Étienne. Et Étienne a exactement traduit même des situations très précises que j'ai vécues en chanson, en poésie. Et en plus, moi j'aime toujours que les chansons, les gens se les approprient. C'est fait pour ça, les chansons, c'est fait pour les écouter, pour danser, pour chanter, mais pour que des gens se sentent moins seuls aussi, de se dire « Ah, moi aussi, j'ai cette histoire !» Et c'est rassurant.
Vous chantez pour quelqu'un ou quelqu'une ?
À la base, en fait, peut-être au départ, quand on écrit un texte, oui, souvent, il y a une personne très précise en tête, ou parfois peut y en avoir plusieurs. Peut-être parfois aussi par protection, on peut choisir de pas d'oublier, mais de diluer ça.
Dans ce disque, il y a des textes que vous avez écrits, il y a aussi un texte en anglais. Comment vous choisissez la langue ?
Alors, souvent quand j'écris en anglais, c'était par facilité, j'ai beaucoup plus de facilité. Enfin, je pense, que je suis pas la seule à écrire en anglais qu'en français. Ouais, le français c'est beaucoup plus difficile. Mais pourtant, j'aime tellement chanter en français. Mais on dit des choses plus simplement et plus directement peut-être en anglais. Donc, mon choix a été la facilité. Et par exemple, la chanson. Alors, j'ai deux chansons en anglais sur le disque. Il y en a une, c'est un poème qu'a écrit ma fille en anglais. Et l'autre, la chanson que moi j'ai écrite en anglais, c'est aussi un texte que j'ai commencé il y a 10 ans. Et ouais, je sais, mais en fait, j'avais pas le refrain de cette chanson musicalement. Et donc la chanson me plaisait pas. Et puis c'est là, en travaillant sur ce disque, que j'ai terminé la chanson en me disant quand même que le début était quand même pas si mal. Donc... Donc je l'ai terminé en anglais, ça sonnait tellement bien en anglais. J'ai même pas cherché à essayer de faire un texte en français parce que je me suis dit que j'allais jamais retomber dans les pieds, dans les sonorités que j'avais. Et donc, voilà. Après, il y a aussi parfois des chansons que j'ai écrites en anglais parce que je m'adressais à quelqu'un qui parlait anglais, donc j'avais envie que ça arrive à ses oreilles directement en anglais. Mais là, franchement, c'était le fait. Pardon de vous dire, c'est pas très reluisant, c'était la facilité.
Et puis on se planque un peu plus quand on chante dans une autre langue quand même.
Bien sûr, oui, je suis d'accord avec vous. Effectivement, on a l'impression que c'est pas son intime qui parle. Peut-être, ouais, vous avez raison.
A fortiori pour un texte comme ça.
Oui.
Make you mine. Te faire mien ou mienne.
Wow, ouais, bah c'est moche en français, par exemple. Ouais, te faire mien. Enfin, en tout cas, c'est pas moche, mais dans les pieds que j'ai dans la chanson, ça sonnait moins bien. Il y avait un tas de choses dans cette chanson, dans ce texte, qui sonnaient. C'était musical. C'était pas que le sens, mais musicalement, ça tombait tellement bien. En fait, c'est une chanson. J'ai pas tellement envie de donner mon sujet, parce que j'aime tellement quand les gens font que les chansons deviennent les leurs. Donc j'ai rarement envie de raconter l'histoire derrière cette chanson. Enfin, après, elle est très basique et très universelle. C'est à l'époque où j'étais un cœur à prendre et d'avoir envie d'aimer, peut-être plus que d'être aimée même, peut-être d'avoir envie d'être amoureuse, envie de d'aimer, quoi. Voilà. Et c'est une chanson qui disait comment te faire mienne, c'était à l'amour que je parlais. Enfin, que je parle.
Sa voix à elle, démultipliée, plusieurs chansons de ce disque sont signées avec les harmonies vocales de Vanessa Paradis.
Mais j'adore. J'adore faire ça. C'est quelque chose vraiment de magique d'harmoniser une piste de sa voix. C'est que tout d'un coup, ça devient vraiment, en harmonisant, donc en ayant deux pistes de voix, ça devient vraiment un instrument. C'est-à-dire que la phrase musicale, elle devient plus belle, quoi. Elle devient plus... Il y a des milliards de façons différentes d'harmoniser. Hein. Donc après, c'est comme la cuisine. Il suffit de trouver le bon ingrédient et d'en mettre ce qu'il faut. Une phrase chantée qui peut-être a un petit peu moins de force ou de poids, on l'harmonise et en fait, on met un projecteur aussi sur la phrase aussi, parfois.
Ce disque, il est, d'une façon générale, quand même très orchestré, avec des parties de cordes, avec des cuivres. Vous aviez envie de ça, cordes et cuivres.
J'ai toujours envie de ça, mais comme j'ai toujours aussi envie de faire un disque très très épuré où il n'y a rien, et en fait je finis toujours par mettre des cordes et des cuivres parce que j'aime tellement ça sur les disques des autres, ça me fait vibrer en fait, j'aime vraiment vraiment ça, et puis ça sublime les chansons. Hein.
Quand vous avez eu pour la première fois les manettes de la production d'un disque, qui s'est passé avec Bliss, je crois. Mmh. C'est-à-dire que la première partie du disque, c'est Mathieu Chédid qui l'a réalisé. La deuxième, c'était où ? Je crois que vous étiez à Los Angeles à ce moment-là.
Oui.
Le premier jour où Vanessa Paradis est aux manettes du disque pour produire, ça s'est passé comment ?
En larmes.
Ah oui.
Enfin, non, j'ai retenu mes larmes toute la journée. Le soir, en rentrant, j'ai pleuré de parce que je m'en sentais tellement pas capable et je savais tellement pas comment j'allais faire. Et j'ai eu la chance d'être entourée de très 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 grands musiciens qui m'ont donné leur maximum et en plus leur humanité et leur patience, pour que j'arrive à voir clair dans mes idées, mes envies. Leur gentillesse a permis que je me sente légitime de leur dire quoi faire.
Parce que c'était pas le cas ? Vous vous sentiez pas légitime de dire j'aimerais ça ou ça ou ça ?
Oui, j'étais pas forcément sûre de mes idées, j'étais pas sûre que ce soit ça qu'il faille faire, mais j'étais pas sûre, je ne savais pas non plus qu'on pouvait ne pas être sûre et qu'on était là pour aussi essayer des choses et de voir où est-ce que les choses prenaient ou quoi. Il fallait bien que je le fasse la première fois. Et j'ai été piquée de ça. Maintenant, j'ai tout le temps envie d'en faire partie ou quoi. C'est tellement jubilatoire que de fabriquer son disque en équipe, enfin seul ou en équipe. Moi, c'est jamais seul. Je serais pas capable de le faire seul. Mais ouais, c'était vertigineux. Mais bon, c'était comme un saut en parachute. Il y a un moment, on peut répéter le truc. Il y a un moment faut sauter, donc à partir du moment où j'ai arrêté d'avoir peur ou d'avoir honte ou de me dire que c'était pas valable, en fait j'ai simplement essayé. Et puis en plus aussi, à force de travailler avec des grands artistes, de voir à quel point ils essayent, ils se trompent, ils sont pas sûrs d'eux ou quoi, tout ça aussi fait que ça vous légitimise, quoi, un petit peu, de se dire bon bah voilà. Et puis il y a qu'en faisant qu'on apprend.
Mais l'un des moments clés aussi par rapport à ça, dans les grands lieux d'enregistrement, je pense à New York et je pense à l'album Vanessa Paradis, qui porte ce titre-là, où aussi vous êtes dans un registre soul années 60, l'album conçu avec Lenny Kravitz. Là aussi, c'était dans un studio, avec une première fois aux États-Unis, je crois.
Là, j'ai... bien que j'ai évidemment choisi mes chansons, donné mon avis, mais j'ai très peu créé sur cet album-là, quoi. J'ai justement choisi Lenny Kravitz parce que j'aimais ses chansons et la production de son, à l'époque, c'était son premier album et que j'avais envie de chanter des chansons exactement comme ça. Enfin, c'était tellement ce que j'avais envie de chanter. Et j'ai eu la chance qu'il accepte de me faire un album tout entier, quoi. Alors que c'est un artiste qui était en pleine, explosion de sa propre carrière. C'est un disque dont je suis très, très, très fière. Et alors, effectivement, j'ai appris plein de choses en faisant ce disque ou en les observant. Quand je dis les, parce qu'il y a Henri Hirsch, qui est un compositeur sur le disque, mais qui est musicien, mais qui était l'ingénieur du son et un très, très grand technicien, voilà, et qui a mixé le disque. Donc, tout ça fait partie du son aussi du disque. Donc, en les observant, je pourrais peut-être pas mettre des mots sur ce que j'ai appris, mais j'ai appris énormément. Et puis ils m'ont fait travailler comme des chiens. J'ai tellement travaillé ma voix sur ce disque, tellement recommencé, fait et tellement de prises et de prises et de prises pour arriver à chanter les chansons comme ils les entendaient et comme j'avais envie de les chanter aussi. Donc j'étais heureuse d'être de travailler aussi intensément.
Ce disque, composé par Lenny Kravitz, s'inspire de la pop des 60s comme celle chantée par les Ronettes, par exemple. Nous étions en 1963, près de 30 ans plus tard, en 1992 donc, Vanessa Paradis interprétait une chanson différente, mais qui porte le même titre, Be My Baby. Et ça faisait...
Can you tell me?
La musique soul, la pop orchestrale des années 60 et 70 compte parmi les inspirations du nouvel album de Vanessa Paradis intitulé « Le retour des beaux jours ». Elle voulait des ballades, des morceaux pour danser, des rythmiques rap, et vocalement, l'une des références citées est une chanteuse britannique qui s'est fait connaître au milieu des années 80, c'est Sade.
J'ai beaucoup appris à chanter en chantant avec mes chanteuses préférées, comme tout le monde fait en chantant sur les chansons des autres. Alors des chansons, j'ai espéré chanter aussi bien qu'Aretha Franklin ou Sade, mais quand même je me suis entraînée. Quoi. J'ai chanté avec elle et d'essayer. C'est vrai que c'est des très très bons cours de chant en fait, hein, parce qu'en fait plus on chante, plus on entraîne sa voix. Donc oui, j'ai chanté énormément sur les chansons de, c'est pas facile à dire, les chansons de Sade. mais après, quand je chante mes chansons, ça on oublie. C'est comme les cours de chant, on les oublie au moment où quand on va chanter devant les gens, parce que
ouais, mais ça a dû infuser quelque
bien
part.
Bien sûr, ça, c'est, certainement, forcément, et j'espère bien.
Le tube que Vanessa Paradis a choisi pour Totemic ce matin a été enregistré en 1970 et il commence par ces mots. Les mères sont trop nombreuses à pleurer, les frères sont trop nombreux à mourir. On doit trouver une solution pour ramener l'amour là-dedans. Le titre c'est What's Going On. Et le chanteur c'est Marvin Gaye. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Marvin Gaye, il est dans l'un de mes cinq chanteurs préférés depuis ma vingtaine. Ça fait longtemps.
Vous l'avez découvert comment ?
En fait, je connaissais évidemment Marvin Gaye et puis certaines de ses chansons. Mais il y a un jour où je me suis rendu compte que c'était vraiment l'un de mes préférés. Quoi. Parfois, j'entendais une chanson de lui, je ne savais pas que c'était lui. Je me disais, c'est qui chante aussi bien ? À chaque fois, c'était lui. C'était tout le temps lui. Et après, quand vous regardez Marvin Gaye chanter en direct, c'est époustouflant. On dirait qu'il parle, il respire, ça a l'air d'une tête si facile. Et pourtant, il chante divinement bien.
Ça, c'est un truc, effectivement, qui lui est propre. Enfin, il y a une archive où il chante What's Going On, allongé sur un canapé. Il y a ce côté à l'oreille où on a l'impression qu'il est détendu tout le temps.
Mais totalement. Moi, en plus, j'ai eu la chance d'entendre des pistes. Vous avez entendu le chewing-gum ou pas ?
Ah,
le
non.
Mec est tellement détendu, il a le chewing-gum dans la bouche, il met sur le côté.
Pour chanter ?
Ah, oui, non. Pour chanter, peut-être pas tout, je pense que c'était peut-être les chœurs ou quoi. Mais il y a un moment où j'entends qu'il met le chewing-gum sur le côté de sa bouche pour chanter. Puis après, il doit s'en servir, je ne sais pas, mais je trouvais ça... Enfin, il chante comme il respire. J'allais mettre des frissons, c'est sûr, hein.
Voici quelques éléments isolés, dont la voix de Marvin Gaye dans What's Going On.
Rien que les congas, j'ai des frissons.
Father, we
escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
Voilà, là il fait l'harmonie.
You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Alors, le chewing-gum dont je parlais, je pense qu'il est sur la piste de sa voix harmonisée à lui. Et il y a un moment même, il y a des choristes qui chantent avec lui, on sent qu'il est là avec eux dans la pièce, qu'il chante avec eux. Mon goût va vers sa voix, mais je pense qu'il y a quelque chose de chimie. De toute façon, je parle souvent de chimie parce que il y a des choses qui sont l'addition de plusieurs choses qui produisent plus d'effets sur vous. Et en général, ça vient de la chimie ou de l'alchimie de plusieurs éléments mis ensemble. Donc là, voilà, c'est la voix de Marvin Gaye, c'est ce qu'il chante, c'est comment il le chante. Et puis après, je sais à quel point il est beau, donc j'ai mon imaginaire aussi qui va vers à quoi il ressemble quand il chante. Enfin bon, voilà.
Est-ce que vous vous êtes détendu ou est-ce que être détendu quand vous chantez, c'est un objectif?
Déjà, ça change selon les chansons. Il y a des chansons qui sont plus difficiles que d'autres à chanter, où c'est même carrément sportif, où on finit de les chanter, on est, il faut s'asseoir, quoi, tellement on s'est servi de sa respiration, de son ventre et tout. En fait, ce que je trouve important, moi, quand je suis en studio, c'est de pas se censurer, d'y aller, quoi, de chanter d'une manière. D'ailleurs, sur mon dernier disque, en fait, la plupart des voix ont été enregistrées pendant les maquettes. Parce que pendant les maquettes, pendant qu'on préparait ce disque, je mettais souvent une voix sur les chansons pour pouvoir travailler, pour pouvoir élaborer les chansons. Et après, quand je me suis retrouvée vraiment en studio, j'ai refait les voix. Mais quand je les ai fait moins bien que les autres, que celles des maquettes, j'ai gardé celles des maquettes. Et résultat, sur mon disque, la plupart des voix ont été faites en maquette, c'est-à-dire à un moment où je chantais sans savoir que je chantais pour de vrai, de bon. Et sans, donc, c'est comme faire quelque chose sans savoir qu'on est filmé. Ou voilà, c'est pareil.
Sans pression.
Sans pression, exactement. Et je l'ai fait même sans pression et sans auto...
Censure,
merci. Ou de s'écouter, de dire il faut que je chante comme ça. Là, je chantais d'une traite et en fait, ça a donné les plus belles voix. Donc, oui, quand on chante, c'est bien d'être détendu, mais plus on se dit qu'il faut être détendu, moins on lève. Tout ça, c'est.
Vous prenez des cours de chant, vous travaillez votre voix?
Oui, non, il faut, bien sûr, oui. Bien sûr, il faut. C'est,
depuis longtemps?
Oui, depuis longtemps. Après, avec des pauses, il y a des moments où j'ai pas pris de cours de chant et puis j'ai changé plusieurs fois de professeur. Là, maintenant, j'ai travaillé avec Jérémy Reynolds. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble parce que c'est comme un athlète, les cordes vocales. Si on les travaille pas, elles ne chantent plus comme avant, donc il faut les entretenir.
Alors, qu'est-ce que vous auriez découvert de votre voix que vous ignoriez en prenant ces cours de chant depuis toutes ces années?
Alors, d'abord, la voix, elle évolue selon sa vie, selon les années. La voix devient plus grave que les aigus de notre enfance, de notre jeunesse, je veux dire. Voilà. Si en plus, on n'a pas été complètement sage avec de la nicotine, ça aggrave la voix.
Ce qui est votre cas.
Ce qui est mon cas, mais j'ai arrêté, là, depuis un an et demi. Et justement, je redécouvre quelque chose de ma voix, justement, le fait d'avoir arrêté de fumer m'a permis de récupérer des aigus que j'avais perdus. Après, qu'est-ce que je découvre de ma voix? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que les cordes vocales font partie du corps, le cartilage autour des cordes vocales, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'assouplit, sinon, c'est comme tout, ça rouille. Et après, c'est moins bien.
Vous l'avez toujours aimé, votre voix?
Ah non. Non, je l'ai pas du tout toujours aimée. Non, surtout quand j'étais jeune, qu'elle était très aiguë, je l'aimais pas trop. Et puis on l'entend différemment quand on l'entend comme ça que quand on l'entend sur une bande, quoi. Alors, pour ceux qui ont connu les répondeurs, on a commencé à entendre sa voix un petit peu sur les répondeurs, sur les cassettes, qui accéléraient un petit peu le mouvement avec une voix un petit peu aiguë, un peu nasillarde, un peu... voilà. Et puis, justement, le fait qu'elle soit devenue un petit peu plus grave m'a un petit peu plus plu. Et puis aussi, le jour où j'ai des gens que j'estime qui m'ont dit que je chantais bien, ben, je me suis mis à aussi un petit peu plus aimer ma voix.
C'était à partir de quel moment ?
C'est plus ce Mathieu Chédid qui m'a donné énormément confiance en ma voix, et particulièrement quand on a fait un album ensemble en 2008. Donc peut-être par là.
2008, c'est l'album Divine Idylle, et ce morceau porte le titre homonyme. Le décor, un petit salon d'une suite d'hôtels. Le motif, une conversation avec Vanessa Paradis pour Totemic sur France Inter. La date, un jour d'octobre 2025, avant la sortie de son nouvel album Le Retour des Beaux Jours, coécrit avec Étienne Dao et Jean-Louis Pierrot. Et la question suivante, c'est celle-ci. Quelle serait la chanson du disque qui vous aurait donné le plus de fil à retordre ?
J'arrive pas à savoir celle qui m'a donné le plus de fil à retordre, je ne me souviens pas. Ah si, je sais, c'est une qui s'appelle « Les initiales des anges ». C'est une chanson que j'ai commencé par composer moi, enfin que j'ai commencé, ça fait des années que je suis dessus. Et c'est la chanson auquel j'ai donné le plus de versions d'accords différents, parce que elle me satisfaisait pas complètement. Puis quand elle a commencé à me satisfaire, c'est Étienne qui me disait ouais, pas mal, mais peut mieux faire. Donc comme je voulais pas la lâcher, elle était importante pour moi, cette chanson, parce que c'est une chanson qui parle de Los Angeles, qui est une ville dans laquelle j'ai beaucoup vécu, et j'ai beaucoup vécu de choses. J'avais besoin d'en faire une chanson, donc c'était important. Donc j'ai donné beaucoup, beaucoup de versions à cette chanson, jusqu'au jour où Jean-Louis Pierrot m'a sauvée et où lui, il a donné de nouveaux accords au refrain qui ont libéré ma mélodie, et donc voilà, qui a fait que la chanson a trouvé enfin sa raison d'être sur le disque, celle qui m'a donné le plus de soucis à composer, vraiment, mais je suis contente maintenant qu'elle soit là.
Elle est comme une fuite au bord du Pacifique, un décor fantastique où fleurit la vallée. Elle est comme une suite qui cherche sa musique, son air mélancolique de l'amour les reflets. Elle est, paraît-il, un ciel bleu idéal pour qui rêve d'exil.
C'est une chanson mélancolique, cette chanson sur Los Angeles.
Oui. En fait, c'est marrant, c'est une chanson qui aurait dû être beaucoup plus mélancolique que ça. Et puis, ben, c'est marrant comme la musique, il faut la laisser vivre aussi. Elle fait, enfin, je trouve qu'en fait, du coup, je m'attendais pas à écrire une chanson aussi qui mettait autant à l'honneur la ville, parce que je pensais que j'allais beaucoup plus parler de mes sentiments et mes sensations par rapport à la ville. Et en fait, c'est la ville qui l'a emporté.
Et c'était quoi vos sentiments et vos sensations,
alors ? C'était plus mélancolique que ça. Mais je voulais aussi, évidemment, rendre hommage à cette ville qui m'a accueillie depuis si longtemps. Et en fait, quand je fais l'addition de tout ce que j'ai mis dans ce texte, je trouve que ben, on a plus envie de célébrer cette ville que de la pleurer.
Par rapport à cette ville, qui est un thème important, enfin, c'est l'une des chansons importantes du disque, ne serait-ce que parce que vous en êtes l'autrice et la compositrice, comment cette ville vous a changé ?
Personnellement, en fait, j'ai pris plus de temps pour lire, plus de temps pour faire du sport, plus de temps pour travailler ma voix, plus de temps pour écrire, composer des chansons, plus de temps pour moi, puisque j'étais loin de mon travail en France, de ma famille en France, de mes amis. De cette ville m'a aussi permis d'être peut-être une maman plus anonyme que je ne l'aurais été en France, et donc du coup d'être plus à l'aise dans ce rôle que j'ai vraiment, que j'ai incarné. J'ai squatté l'école, quoi. J'ai été tellement assistante d'école parce qu'on voulait bien de moi et que moi j'avais envie d'y être aussi, hein. Je me suis pas forcée. Voilà, donc je pense que cette ville, m'a énormément permis d'être une maman parmi les autres.
Alors d'où viendrait la mélancolie ? De la solitude ?
Certainement de la solitude, parce que enfin les mamans passent pas leur vie avec leurs enfants, et heureusement pour eux, hein, pour les enfants. Peut-être oui, la solitude, peut-être l'éloignement loin des miens, aussi c'est voilà, on parle des choses qui me plaisent le moins là-bas. Les saisons m'ont beaucoup manqué là-bas, le fait aussi, la spontanéité de marcher dans la rue, on marche pas là-bas, les gens sont tous dans leur voiture un petit peu seuls, voilà. Donc ça, c'est toutes les choses que j'aime pas, mais pourtant j'ai écrit une chanson justement pour célébrer tout ce qu'il y a de beau là-bas. Et il y a plein de choses belles. En fait, justement, je, comme je vous dis, je m'apprêtais à chanter une chanson assez triste, et en fait, le texte, je me suis pas forcée, devient quelque chose de plutôt glorieux que triste.
J'aimerais vous faire écouter la voix d'Étienne Dao, qui a composé, écrit plusieurs chansons du disque avec Jean-Louis Pierrot. Alors ça, c'est un extrait de Totémique. On est à Motorbass.
Ça fait quelques années que j'ai compris ça, en fait, que je préférais être compris qu'être aimé. Parce que c'est plus profond, et que être aimé, c'est très volatile, hein, c'est très fugitif. J'ai connu cette espèce d'élan passionnel dans mes premières années. Et c'était génial, hein, c'était très agréable de recevoir des petites culottes sur scène, mais c'est anecdotique, en fait. J'avais de l'ambition, j'avais envie de faire des belles choses. Et j'avais envie d'évoluer, j'avais envie de faire des choses différentes. Et donc je suis passé par des disques qui ont dérouté, qui ont été détestés par les gens. Mais avec le temps, ont pris le temps de se faire apprécier par eux-mêmes, en fait.
Qu'est-ce que j'aime la voix d'Étienne Dao, parler et chanter. Et sa première phrase, qu'il préfère être compris, peut-être plus d'être compris que d'être aimé, ça d'une puissance et d'une... Moi, tout à l'heure, je vous disais que j'avais envie d'aimer peut-être encore plus que d'être aimé. Je ne sais pas si moi, je préfère être comprise que d'être aimée. Mais en fait, je comprends ce qui... J'ai l'impression que quand on nous aime... Enfin, en fait, non, je crois que j'espère que quand on nous aime, on nous comprend.
Parce que parfois, il y a des malentendus.
Et bien sûr, bien sûr. Évidemment, bien sûr qu'il y a des malentendus ou des gros malentendus. Bien sûr, bien sûr.
Il y a eu des malentendus à votre sujet ?
Oui, 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 c'est sûr, on est... Enfin, bon.
Mais est-ce que pour vous aussi, c'est plus important d'être comprise que d'être aimée ?
Alors, peut-être oui, parce que j'ai l'impression que quand on est... Enfin, c'est très vaste, j'allais dire. Alors, est-ce que quand on est compris, on est aimé, de toute façon ? Parce que j'essaie de tourner les phrases dans un sens et dans un autre. Mais bien sûr, c'est tellement rare, tout va tellement vite aujourd'hui ou quoi. Donc, simplement que les gens vous... Si vous comprennent, déjà, c'est qu'ils ont pris le temps de vous écouter. Je trouve ça incroyable. Puis alors, chez vous, là, avec le micro et cette émission, c'est vraiment quelque chose qui doit vous parler. Mais...
Parce que vous, le succès, vous l'avez eu immédiatement, en fait.
Oui.
La moue que vous faites
mais
quand...
Non, mais parce que c'est une grande chance, mais...
La moue que vous avez faite,
c'est... Oui, non, mais parce que c'est très rare. Après, alors, il y a des retours de manivelle, un petit peu, pour ce genre de choses qui vont très, très vite, mais c'est vrai que c'est tellement rare, c'est une chance. Il y a des gens qui attendent tellement longtemps pour avoir le succès. Alors, le fait de l'avoir tout de suite permet d'être... Peut-être, certainement, plus détendu, je ne sais pas, mais en tout cas, de moins courir après le succès.
Ça, c'est comme ça que vous vous sentez, de moins courir après.
C'est pas l'essentiel, en fait. Bien sûr que ça compte, le succès, parce que c'est ça qui nous fait exister et vivre et durer. Donc c'est important, bien sûr que c'est important. Mais parfois, je dis ça parce qu'il m'est arrivé de faire ou des disques qui avaient moins de succès ou des films qui avaient moins de succès. Et c'est pas... pour ça que je trouvais que les films étaient moins bons et qui me plaisaient moins, ils étaient très très chers à mon cœur. Donc le succès est aussi quelque chose de très très relatif à un moment, à une corrélation avec plein d'autres choses. Alors évidemment, il a à voir avec l'essence du projet, mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours très explicable.
En tout cas, de vivre le succès. D'accepter qu'il y en ait moins. Enfin, il faut être vachement solide.
Oui, de toute façon, il faut des nerfs solides pour vivre. Il faut ça en général. Mais moi, il y a des disques qui ont vendu moins que d'autres. Pour moi, c'est des gros succès quand même, parce que je les adore. Je les adore. Je ne sais pas, quand j'ai fait mon quatrième album, Bliss, on n'a pas arrêté de me rabâcher. Ah, c'est notre album qui a vendu le moins. Ça n'a pas fait le succès attendu. On n'attend rien, d'abord. On ne sait pas. Ce n'est pas parce qu'on a un succès avant qu'on aura un succès après. Alors, c'est pour ça, peut-être aussi, que je faisais la moue tout à l'heure. C'est que quand on a commencé par un succès, peut-être qu'on est moins à courir après. Mais je n'ai aucune certitude sur ce que je vous dis. Pour moi, mon quatrième album, justement, qui a vendu moins, c'est un dont je suis le plus fière. Et c'est un dont on me parle énormément aujourd'hui. Donc, en plus, c'est pour ça, le succès, c'est quelque chose de trop aléatoire qui va dans un moment, dans un courant. Et bien sûr que ça va avec le contenu de ce qu'on propose. Mais ça va avoir avec plein d'autres choses. Et en fait, ce qui compte, c'est de faire des choses... de les faire bien, de les faire avec son cœur et avec de la chance, avec succès. Mais s'il n'y a pas le succès, ça ne dénigre pas le projet, le moment. Vous voyez, ce serait trop réducteur parce que le succès, c'est ça va, ça vient.
Juste après la foudre. Cette odeur de poudre fait encore le danger. Fin de parcours, faudrait être givré. Avague et sourde pour encore plonger. Le compte à rebours après avoir pesé. Le contre et le pour.
Vanessa Paradis et dans Totémique sur France Inter. On passe à votre carte blanche ?
Alors, d'accord.
Dites-moi voilà. Ce que vous avez choisi.
Ben alors, j'ai plusieurs poèmes à vous lire de Christian Bobin qui viennent du Carnet du Soleil, qui m'a été offert par quelqu'un de proche. Et il y a tellement de poèmes dans ce recueil qui me plaît énormément. Il y en a plusieurs. Alors, je vous en lis plusieurs.
C'est parti.
Alors, il y en a un qui dit « J'ai le secret. Je tiens le secret au bout des doigts. » Comme on tient un papillon fragile entre deux doigts pincés. Il ne faut surtout pas serrer, pas appuyer, pas en dire trop. Le secret, c'est que le cœur de ceux qui meurent explose de joie. Voilà, ça c'est une phrase qui m'a fait beaucoup de bien, la dernière. Le secret, c'est que le cœur de ceux qui meurent explose de joie. Voilà. Ah, ça aussi, c'est très joli aussi. Il faut faire son travail au mieux, puis s'en détacher brutalement. La poussière couvrira tout. Il faut aller d'un pas plus léger que la poussière.
Un dernier ?
Alors, si vous voulez. Alors, il y a un truc aussi, ça c'est joli, c'est... Quand il a vu le piano, il s'est assis devant. Il a joué au clair de la lune. C'est un air que tout le monde joue bien, même quand on joue mal. Je lui ai offert un café. Il partait le lendemain retrouver sa sœur. C'est pas vraiment ma sœur, mais on s'aime bien, on s'aime depuis la petite enfance. Son visage s'illuminait du nom de l'absente. L'amour décolle les visages de la chair et les enflamme comme du papier. Dehors, il neigeait. Les yeux de cet homme et la poudreuse dansant dans les airs écrivaient une phrase plus belle que toutes mes phrases.
Est-ce que parfois, quand vous lisez justement, ça peut influencer votre écriture ?
Évidemment. C'est même d'un grand secours, d'un grand recours. Parfois, en plus, on cherche dans la lecture des autres quelque chose qu'on cherche nous-mêmes à écrire, mais les autres l'ont écrit d'une autre façon. Et en fait, ça nous aussi, ça peut nous conforter, nous rassurer. Peut-être aussi déjà pour pas le faire exactement de la même manière, parce que ça a déjà été fait, mais aussi de se dire que ce qui a l'air aussi important pour nous l'est pour quelqu'un d'autre et donc pour beaucoup d'autres.
On en revient au fait qu'on se sent moins seul.
Ouais, exactement. Exactement.
Merci beaucoup, Vanessa Paradis.
De rien, merci.
Le retour des beaux jours, album de Vanessa Paradis, est disponible à partir d'aujourd'hui et sa tournée commence au printemps prochain. Stéphane Le Guenec réalise Totémique et c'était avec Gilles Gaillard ce matin. Perrine Malinge programme nos invités. Ilinka Negulesco trouve les sons et la documentation. Et JB Audibert prend soin de nos disques. La semaine prochaine, rendez-vous avec un comédien musicien qui a accouché d'une saga intitulée Kaamelott. Vendredi, Totémique est dans une salle de réunion avec Alexandre Astier.